Les premiers hommes préhistoriques en frottant des pierres pour fabriquer des outils pratiquaient donc sans le savoir la science qui nous intéresse cet après-midi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la tribologie, discipline, donc science du frottement et de l'usure? La tribologie est présente partout dans notre quotidien, dans nos comportements, et elle trouve beaucoup d'applications dans des domaines très différents comme par exemple l'archéologie ou la dermatologie. Et c'est le dossier de la Tête au Carré cet après-midi. On va en parler avec mes invités tribologues professionnels qui vont nous éclairer sur cette drôle de science, vos messages, vos questions, dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Des papyrus antiques carbonisés depuis 2000 ans et déchiffrés par des chercheurs, c'est à la une de la science dans un instant. Des rouleaux de papyrus brûlés lors de l'éruption du Vésuve ont donc été décryptés grâce à une technique d'imagerie par rayon X. Nous serons en ligne depuis Grenoble avec les deux scientifiques français qui ont réussi cette prouesse technologique et cette première mondiale. Vos questions dès maintenant sur Twitter. Violaine Ballet réalise cette Tête au Carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin avec Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un tribologue et une archéologue dans la Tête au Carré cet après-midi, Roberto Vargiolu et Aris Procopiou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue Roberto Vargiolu. Votre métier, c'est donc de toucher, de frotter tout ce qui vous passe sous la main, c'est ça à peu près?
Oui, c'est vrai qu'on passe un peu nos journées de temps de recherche à essayer de comprendre un peu le frottement et l'usure. Le frottement et l'usure, finalement, ça se résume en un mot très simple, mais un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tribologie.
Oui, c'est un mot récent d'ailleurs, hein.
Oui, c'est vrai que la tribologie, ça existe depuis la nuit des temps, on va le voir.
L'action.
Mais il a été inventé dans les années 60, en 66 exactement. Et ouais. Ça vient d'Angleterre, où on a décidé effectivement de réduire un petit peu les phénomènes d'usure, qui avaient un coût assez important.
C'est ça. Voilà.
Ouais. Il y a eu des projets qui ont été lancés pour justement essayer de réduire l'usure dans l'industrie.
Voilà, et sans le frottement, on va le voir, un nombre incroyable de nos gestes quotidiens serait totalement impossible.
Oui,
marcher, écrire, par exemple.
Toutes les choses de notre vie, hein, dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que la première, on fait le ménage, mais on frotte, hein, on fait de la tribologie, hein, il faut le savoir.
On frotte beaucoup, c'est ça, sans le savoir.
Mais effectivement, il y a des choses beaucoup plus sérieuses, hein, dans la vie de tous les jours, dans le corps humain, effectivement, toutes les articulations, ouais. Il y a des phénomènes de tribologie, la lubrification qui va être effectivement tout ce qui va venir au niveau lubrifier les articulations, ouais. C'est un phénomène tribologique. Après, il y a plein d'exemples dans l'automobile qui peuvent intervenir.
On a plein de choses à se raconter. Aris Procopiou avec Roberto, on peut le dire, c'est une grande histoire de silex, hein, qui vous a réunis au départ.
Tout à fait.
C'est ça, hein.
Et nous, c'est un peu l'inverse. On essaye, à travers l'usure sur les objets, d'interpréter, de trouver les gestes des artisans, des hommes du passé. Donc c'est une démarche tout à fait inversée.
Oui.
Les tribologues frottent, essayent de produire et comprendre ces usures, tandis que nous on a les usures, on ne sait pas comment elles ont été produites, et on essaye de les éclairer.
Grâce
à ces collaborations.
Voilà, donc on travaille sur différents objets, on va en parler avec vous, et dans différents domaines, par exemple la dermatologie également, sur la peau, hein, qui est un bon indicateur aussi. On se retrouve dans un instant avec toutes les questions des auditeurs. À la une de la science aujourd'hui, une première mondiale extraordinaire, avec des rouleaux de papyrus carbonisés qui livrent leurs secrets.
C'est au milieu de la nuit que la colonne de fumée s'écroule sur elle-même. L'ombre sinistre de la nuée ardente descend du sommet du Vésuve. En 6 minutes, elle rejoint Herculanum et s'abat sur la plage.
Voilà, les papyrus dont nous allons parler proviennent justement de la bibliothèque d'Herculanum à côté de Pompéi. Ils ont été carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79. Papyrus indéchiffrables qui sont pourtant en passe d'être lus grâce au rayon X. Et nous avons par téléphone les acteurs français de cette histoire fantastique, Daniel Delattre et Emmanuel Brun. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Grenoble, hein, depuis le synchrotron où se déroulent justement vos expérimentations. Daniel Delattre, vous êtes papyrologue,
oui,
professeur émérite. C'est ça, pour l'Institut de Recherche CNRS et d'Histoire des Textes.
C'est bien ça.
Et puis Emmanuel Brun, vous êtes chercheur en imagerie médicale pour le synchrotron et pour l'Université de Munich.
Oui.
Daniel Delattre, ces papyrus, c'est pour vous le travail de toute une vie. Ils étaient pendant des siècles noirs, friables, comme du papier brûlé. Et donc là, tout d'un coup, grâce à l'imagerie, vous voyez ces premières lettres qui apparaissent. Qu'est-ce que vous avez ressenti en les déchiffrant pour la toute première fois ?
Écoutez, la première chose a été d'essayer de déchiffrer, de trouver des traces de lettres sur les images reconstruites à partir des scans qui ont été effectués au synchrotron. On ne savait pas si ce sont des images virtuelles en noir et blanc, en gris. Hein. Et donc la question était de savoir si on allait devait chercher dans des traces noires ou au contraire dans des traces claires. Bon, au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que c'était dans les traces foncées. Mmh. Et à partir du moment où on a commencé à voir des alignements, on s'est dit qu'on devait avoir des lettres. Et donc, en améliorant l'image, en augmentant les contrastes, etc., on a pu faire apparaître les premières lettres. Les fibres du papyrus étant perpendiculaires et se voyant aussi sur ces images, la grande difficulté est de distinguer les lettres de ces fibres. Et quand nous avons des lettres arrondies, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas dans des fibres et que ce sont bien des lettres.
Alors Daniel Delatte, justement, depuis longtemps, des chercheurs ont essayé de lire ces papyrus carbonisés. Il fallait déjà être très optimiste, mais à chaque fois d'ailleurs au prix de leur destruction. C'était très compliqué.
Voilà, c'est ça. Ce n'est pas la première fois qu'on lit des papyrus d'Herculanum. On a commencé à les ouvrir dès 1754. Mais c'est la première fois qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un rouleau, donc on n'a pas besoin de le détruire pour découvrir du texte.
Emmanuel Brun, vous avez mis au point la technique d'imagerie qui a permis de déchiffrer ces lettres. Comment concrètement, expliquez-nous, vous parvenez à voir à l'intérieur d'un rouleau carbonisé ?
Alors le principe est à peu près le même qu'à l'hôpital, sauf qu'à l'hôpital, quand on vous passe une radio, quand vous passez un scanner, on va mesurer l'atténuation des rayons X. Mais là, on va utiliser un phénomène qui est 100 à 1000 fois plus important que l'absorption, que l'on appelle la réfraction, et qui font que les rayons X sont déviés par la structure interne du tissu ou du matériau qu'on regarde. Et lorsque les ondes sont en phase, ce qu'on appelle en phase, donc qui arrivent à peu près du même endroit, à peu près en même temps, comme c'est le cas dans un synchrotron, on est capable de mesurer un déphasage. Et ce déphasage va nous permettre d'augmenter le contraste dans nos images par rapport à ce qu'on peut faire à l'hôpital.
Quel que soit l'état justement du matériau qui vous arrive alors ?
Oui, après on va faire varier plusieurs paramètres pour étudier le matériau en question, oui.
Alors là, en l'occurrence, c'est le synchrotron de Grenoble qui vous a permis cette découverte et qui fait l'objet donc d'une publication dans Nature Communication. Donc ça fonctionne bien maintenant, cette technique, elle est au point. Qu'est-ce qui manque véritablement pour aller au-delà ? Parce que là, justement, Daniel Delatte nous parlait de quelques lettres aperçues sur le papyrus, mais l'idée, ce serait de pouvoir découvrir le texte dans son intégralité. Ce serait possible ou pas bientôt ?
Oui, je pense que c'est relativement possible. On espère le faire dans un avenir relativement proche, de l'ordre d'une décennie. Il faut d'abord travailler sur la méthode d'imagerie, optimiser un petit peu mieux les différents paramètres de la technique. Mais aussi, il y a un gros travail à faire sur l'analyse de données, puisque le problème est que le papyrus a été carbonisé en combustion quasiment sous vide et donc a été déformé énormément. Et donc il est difficile de sortir la surface d'une des spires du papyrus. Et donc un gros travail doit être fait là-dessus, sur cette partie-là, que nous allons entamer.
Daniel Delatte, alors vous n'êtes pas du tout physicien. Vous arrivez dans ce monde des synchrotrons, par exemple, comme à Grenoble. Vous êtes un spécialiste des papyrus, mais c'est extraordinaire pour vous ce que vous pouvez découvrir grâce à la technologie.
Oui, c'est une expérience tout à fait unique pour moi. Je ne pensais pas qu'à mon âge, j'aurais ce plaisir de collaborer avec des collègues aussi pointus sur le plan scientifique. Et qui ont beaucoup de patience et qui sont très pédagogues avec moi, et que nous faisons une très bonne équipe.
Qu'est-ce que vous avez réussi à lire alors sur ce papyrus, en l'occurrence ? Quelles sont les informations là, qui sont remontées à la surface quelques milliers d'années d'après ?
La première information est que nous avons affaire à un texte grec, parce que dans la bibliothèque de la Villa des Papyrus, il peut y avoir des textes latins ou des textes grecs. Les lettres que nous avons pu lire, et j'ai pu reconstituer un alphabet presque complet, 22 lettres sur les 24, ces lettres sont des lettres grecques, on ne peut pas les confondre avec des lettres latines. Donc c'est une première information. Et pour l'instant, il a été possible de lire deux ou trois mots. La grande difficulté, c'est qu'on a une écriture continue dans ces papyrus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les mots et qu'on ne peut les couper valablement que quand on a des phrases entières, si vous voulez. Donc, pour le moment, c'est très difficile d'identifier véritablement de manière certaine les mots. Mm-hmm. Mais on a des séquences de lettres qui sont des séquences parfaitement cohérentes en grec, tout à fait possible. Et donc, l'amélioration de la technologie devrait nous permettre assez rapidement, je pense, d'aboutir à lire des lignes et peut-être plusieurs lignes dans une même spire.
Et quant à l'auteur de ce texte, est-ce que vous avez des informations aussi qui sont révélées là tout d'un coup ou pas ?
Oui, il y a une possibilité, je reste extrêmement prudent sur ce point, il y a une possibilité parce que certaines de ces lettres ont une caractéristique particulière. Les verticales du début des lettres se terminent par un petit crochet qui représente un quart de cercle, la partie inférieure. Et c'est une caractéristique dans l'écriture d'Herculanum qui est assez rare. En se référant au papyrus qui présente cette caractéristique, on est tenté de penser qu'il date d'une même époque, peut-être de deux scripts différents, mais écrivant d'une façon voisine. Mmh. Et donc, comme ceux qui ont été repérés avec cette écriture sont de Philodème, l'épicurien Philodème de Gadara, eh bien, il ne serait pas impossible que ce papyrus soit de lui, parce que c'était sa bibliothèque qu'on a retrouvée.
Bah écoutez, c'est magnifique, c'est une véritable enquête policière, donc rendue possible grâce au synchrotron de Grenoble. Axel, on met la publication sur la page de l'émission.
On l'a mise sur la page de l'émission, on la retrouve aussi sur Facebook, ainsi que des photos des papyrus carbonisés qui sont impressionnants. On se demande comment on peut arriver à lire quelque chose à l'intérieur de ces papyrus quand on les voit. Oui.
C'est vrai, absolument. Merci beaucoup Daniel Delattre et Emmanuel Brun.
Merci
Vous fêtez ça au champagne en ce moment à Grenoble, parce que c'est quand même une très belle découverte. C'est une première mondiale et ça fait l'objet d'une publication dans Nature Communication. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À tous les deux. Au revoir.
Au revoir.
Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'amiante, toujours à l'origine d'au moins 2200 cancers et 1700 décès chaque année en France, selon la dernière publication de l'Institut de veille sanitaire. Le cancer du poumon arrive largement en tête des cancers professionnels attribuables à l'amiante, malgré l'interdiction du matériau isolant en 1997. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire estime quant à lui qu'entre 2200 et 5400 cas de cancer sont détectés chaque année en France, touchant surtout les hommes avec les cancers respiratoires. Votre mot de passe est-il assez sécurisé? Vous pouvez le vérifier en consultant une liste des 25 mots de passe les plus utilisés par les hackers pour pirater un compte en ligne. Cette liste est publiée par le site spécialisé dans la sécurité Splash Data. En tête du classement arrivent les traditionnelles séries de chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou alors des mots très simples comme password. On vous conseille de faire des phrases mots de passe, par exemple comme j'adore écouter la tête au carré, quelque chose de simple et de facile à retenir et qui donnera du fil à retordre, on en est sûr, aux pirates du web. Et puis pour finir, un jeu vidéo pour aider les ados. Son nom est Clash Back. Dans ce jeu, l'adolescent doit choisir les répliques des personnages lors de disputes avec ses parents. Un jeu élaboré par le psychologue Xavier Pomereau et qui permet aux psys de dialoguer autrement avec les adolescents en difficulté en étudiant leur comportement et leurs réactions. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de ce jeu sur notre page Facebook. Frottement, usure et toucher, bienvenue dans un instant dans le monde étrange de la tribologie. Sweet Dreams, Eurythmics à l'instant et sur France Inter.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Et qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à une discipline scientifique peu connue, donc qui s'appelle la tribologie. Retenez bien ce nom. Et pour vous en parler, pour vous faire découvrir tous les aspects de cette science, je suis avec le tribologue Roberto Vargiolu et l'archéologue Aris Procopiou. Roberto Vargiolu, vous êtes donc ingénieur de recherche au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes. Ça existe, hein, à l'école centrale
oui,
de Lyon.
Je confirme.
Voilà, laboratoire CNRS. Et puis Aris Procopiou, vous êtes maître de conférence à Paris, hein, Panthéon-Sorbonne CNRS. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine de l'archéologie exactement?
Donc à la protohistoire égéenne, donc la région autour de la mer Égée, la Grèce, l'Anatolie.
Et la protohistoire, oui, ça correspond à quoi alors?
Néolithique, âge du bronze, on est entre 6000 et 1000 avant notre ère, 6000, 3000 le néolithique et 3000, 1000 l'âge du bronze, période qui a vu naître les civilisations palatiales.
Bien, Roberto Vargiolu, comment vous êtes tombé dans la tribologie? Parce que c'est quand même une science peu répandue pour le moment, non?
Bah, c'est vrai, je suis un peu tombé dans la tribologie par hasard, parce qu'à la base, je n'ai pas du tout un profil de mécanicien, puisqu'un tribologue, finalement, c'est un mécanicien. À la base, je suis électronicien.
Oui.
Et bah, par le hasard, tout simplement, dans mon laboratoire, comme on développe beaucoup d'outils de métrologie, hein, puisque finalement, il faut savoir fabriquer des outils pour mesurer ce qui n'existe pas. Hein. On va le voir peut-être tout à l'heure avec la mesure de la douceur. Et ben, il recherchait un électronicien et de fil en aiguille, ben, je me suis spécialisé et je suis devenu tribologue.
Mais oui, et vous portez la bonne parole de la tribologie d'ailleurs. Hein.
Oui, j'essaie effectivement, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple hein, de parler de tribologie. Alors heureusement, on a des sujets qui intéressent, et comme la cosmétique, la peau et puis l'archéologie justement, qui permettent de vulgariser la tribologie.
Oui.
Ça permet effectivement de faire connaître cette science hein, qui mérite d'être vraiment connue.
Bon, mais vous êtes nombreux en France à faire ça ou pas?
Alors c'est vrai que notre laboratoire à Lyon est quand même un laboratoire réputé au niveau national, international.
Mm-hmm.
On va en retrouver quelques laboratoires qui effectivement en France vont faire de la tribologie, mais notre laboratoire est vraiment une structure assez importante et qui justement est très diversifiée à tel point qu'on fait de la biotribologie, à de la tribo-archéologie.
Ah oui.
Donc un éventail assez large.
D'accord.
Qui nous permet effectivement d'avoir des projets dans ce domaine-là très, très riches.
Oui, Aris Procopiou, vous ne connaissiez pas non plus très bien la tribologie il y a encore quelques années, j'imagine, rassurez-moi.
C'était le hasard ou la nécessité.
Ouais.
On s'est rencontrés il y a quand même 20 ans. Donc
ah oui.
Ça commence à faire.
Et ce que vous expliquiez déjà tout à l'heure dans le sommaire, c'est que ça a éclairé en fait votre discipline. C'est-à-dire grâce à la tribologie, en fait, vous découvrez des choses dans vos propres recherches.
On arrive à avoir des informations jusqu'alors inédites. Car les usures présentes sur les objets, les usures que les tribologues mettent en évidence, sont caractéristiques d'une fonction. Donc si un silex a coupé du roseau ou a moissonné les céréales, si un vase a été poli avec de la peau ou avec un abrasif, si le geste de l'artisan était circulaire ou un geste de va-et-vient. Donc on a une série d'informations sur la vie quotidienne, et l'artisanat, les gestes et même les choix techniques de ces artisans.
Donc c'est extrêmement précieux évidemment pour vous en tant qu'artisan. Vous pouvez réécrire toute cette histoire hein, sur laquelle vous travaillez.
En tout cas ce qu'on essaye de faire et en collaboration et en échangeant nos points de vue en regardant ces objets avec deux regards complémentaires.
Roberto Vargiolu, alors justement, la tribologie, donc c'est frotter, c'est ça? C'est la science du frottement.
Alors, la définition de la tribologie, c'est la science du frottement et de l'usure. Donc finalement, ça concerne tous les phénomènes de frottement. Et bien entendu, quand il y a du frottement, il y a de l'usure. Alors de l'usure, c'est quoi? C'est on enlève de la matière. Alors soit effectivement, on va retrouver cette usure, on va vouloir la réduire, hein, notamment dans l'industrie. Soit il y a d'autres exemples où on va vouloir avoir du frottement. Bah, par exemple, l'exemple classique, hein, c'est les pneumatiques. On veut qu'il y ait de l'adhérence. Ou les freins aussi, hein. On veut que finalement, quand on freine, on va augmenter le frottement pour qu'il y ait une usure, pour qu'il y ait un freinage.
Ouais.
Et donc voilà, ça c'est des phénomènes effectivement qui sont aussi de la tribologie. Dans un cas, on veut réduire l'usure, dans d'autres cas, effectivement, on va vouloir effectivement qu'il y ait ce fameux frottement.
Ouais. Donc il n'y a pas que des cas négatifs justement dans le frottement, hein. On cherche soit à l'exploiter, soit à le minimiser, ça dépend de ce que
tout va dépendre finalement de la problématique. Nous on va parler de problématique industrielle. industriels. Voilà, on est confronté à un sujet au niveau des industriels. Soit ils veulent réduire une usure, soit ils veulent effectivement améliorer la glisse. Hein. L'amélioration de la glisse, c'est aussi un sujet très important dans les machines mécaniques, mais plus près de nous, dans la vie de tous les jours, le ski, par exemple. Hein. Ouais. On veut qu'un ski glisse sans justement qu'il y ait ce fameux frottement. Donc voilà, il va y avoir de l'optimisation au niveau de la rugosité des surfaces, des revêtements de ces fameuses semelles de ski pour améliorer la glisse au niveau des skis, par exemple.
Ouais. Et dans l'histoire de l'humanité, donc, le frottement a joué un rôle absolument essentiel dans toutes les grandes innovations, parce que du feu jusqu'à, justement, les silex taillés, ça a été absolument essentiel. Hein.
Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, avec Ara Procopio et d'autres archéologues, nous collaborons depuis 20 ans, tout simplement parce que finalement, on s'aperçoit que les premiers tribologues, c'était ces fameux hommes préhistoriques qui ont inventé les premiers mécanismes d'usure pour polir la pierre, et finalement, on va percevoir que lorsqu'on va faire le parallèle entre les polis préhistoriques et les polis d'aujourd'hui, alors aujourd'hui on nous parle beaucoup de nanomètres, l'échelle nanométrique c'est quelque chose de très à la mode. Et quand nous, aujourd'hui, nous avons des appareils qui vont permettre de mesurer ces fameux nanomètres.
Et les hommes préhistoriques savaient le faire déjà ?
Non, ils ne savaient pas le faire, mais ils avaient développé les techniques justement pour arriver...
Ils arrivaient déjà, oui.
...à faire ces fameux polis. Donc, quelque part, ils le maîtrisaient parfaitement.
Oui, Aris Procopio ?
C'était le point de départ quand j'ai débarqué au laboratoire et Roberto m'a dit « Mais ces polis à l'échelle nanométrique, c'était l'étonnement, comment ces gens qui... » connaissaient pas le nom, qui n'avaient pas d'appareil pour mesurer le poli, arrivaient à produire un tel poli qui n'a rien à envier au poli industriel actuel. C'était ça notre point de départ et on a réalisé qu'avec leur connaissance empirique des matériaux, ils ont choisi les matériaux les plus adaptés, ils ont allé les chercher très loin, en mer Égée, ils partaient de la Crète pour aller dans les Cyclades, à Naxos pour... se procurait de l'émeraude, un abrasif naturel très puissant. Donc il y a tout un investissement pour choisir les abrasifs les plus adaptés afin d'atteindre les objectifs et la surface qu'ils désiraient.
Et donc c'était des vrais tribologues.
Oui, oui, mais tout à fait. Aujourd'hui, les abrasifs qu'on utilise aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux que les hommes préhistoriques utilisaient. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de faire le parallèle.
Alors on a des messages amusants des auditeurs sur franceinter.fr. Jean nous dit ceci, par exemple, quand j'avais 10 ans, j'en ai maintenant 59, je portais des sous-vêtements tribo-électriques qui produisaient des étincelles quand on se déshabillait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On connaissait déjà ce mot en 1960.
Oui, tout à fait.
Tribo-électrique.
On parle de triboélectricité. Oui. Et la triboélectricité, c'est lié au frottement où justement on va activer des charges qui vont générer effectivement
des... Mais quel était l'intérêt d'avoir des étincelles quand on se déshabillait ?
Alors, non, mais ça, c'est la nature du vêtement qui fait. C'est un peu. C'est la nature du vêtement qui fait que. Après, la nature des étincelles, je ne connais pas ce type de vêtement, effectivement, qui générait de la triboélectricité.
Au contraire, aujourd'hui, justement, dans le domaine du textile, on fait exactement le contraire.
Tout à fait, on va essayer, puisque c'est aussi une source d'inconfort, et on va essayer de minimiser ça, bien entendu.
Patrice nous dit ceci, la tribologie devrait avoir pour objectif l'amélioration des matériaux. N'est-elle pas cependant parfois dévoyée par un désir d'obsolescence programmée ? L'obsolescence est une désétude d'emploi et non une panne. C'est presque une question de philo, ça. Vous avez 5 minutes pour réfléchir.
Alors, non,
Charlie.
Ceux qui vont étudier la tribologie, comme nous, des chercheurs, on va effectivement être confrontés à des études industrielles. Donc, effectivement, on va répondre à une demande industrielle. Donc, programmer une obsolescence, ce n'est pas nous qui allons effectivement programmer cette obsolescence.
On vous demande des infos.
Mais nous allons étudier effectivement la durée de vie d'un matériau par rapport à une usure. Après, libre à l'industriel, effectivement, de programmer l'obsolescence du matériau.
Il ne va pas se priver. On peut l'imaginer quand même, non ? Quand on est un industriel, le but, c'est de vendre le plus de produits
forcément.
Possible.
C'est vrai qu'on on a... Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas les demandes industrielles aujourd'hui. Vraiment, les demandes industrielles, c'est vraiment de réduire le frottement, c'est d'optimiser la glisse. Voilà. On est vraiment sur de l'optimisation au niveau des matériaux et c'est vraiment une des principales demandes au niveau des recherches avec les industriels.
Ouais.
Après, il y a tout type de demandes, bien entendu.
Ouais. Et puis, on va parler de la cosmétique, par exemple, avec vous. C'est un secteur industriel qui s'intéresse tout particulièrement à la tribologie, à la douceur de la peau.
La douceur de la peau, exemple. Oui. Quand on frotte... Quand on touche, on frotte. Et effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse fortement.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les messages, franceinter.fr, également Twitter avec le mot-clé, l'attaque.
Dans mon tunnel, je vois des fougères, triangles, isocèles, plongeant vers...
mes mâchoires, les côtes rocheuses de la magie noire, le foutoir déforme le ciel, je voudrais m'asseoir.
Florent Marchais sur France Inter, vous êtes dans la Tête au Carré. Nous découvrons ensemble cet après-midi la tribologie grâce à nos invités, l'archéologue Aris Procopio et le tribologue Roberto Vargiolu. Tous vos messages arrivent en ce moment sur franceinter.fr. Roberto Vargiolu, Léonard de Vinci, c'est un nom incontournable dans le domaine de la tribologie également ?
Ah, c'est vrai, quand on regarde les dessins de Léonard de Vinci, on est assez stupéfait aujourd'hui de voir finalement qu'il était, qu'il avait tout compris au niveau effectivement des sciences, et notamment de la tribologie. Hein.
Ouais. Donc les problèmes de frottement avec lui, c'était un sujet de recherche important.
Voilà, dans ses premiers dessins, on peut voir les expérimentations de frottement, où il faisait frotter effectivement un patin, en tirant ce patin avec une poulie, avec une charge. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, finalement, pour enseigner la tribologie, on utilise exactement, et quand on va vouloir expliquer la tribologie aux novices, on utilise exactement les mêmes modèles, c'est-à-dire un patin qui vient frotter sur un plan, tiré par une poulie avec une charge.
Bon, donc il y a des lois universelles du frottement, on pourrait dire les choses comme ça, ou pas ?
Bah après, effectivement, les travaux de Léonard de Vinci, il y a eu d'autres chercheurs qui sont justement lancés sur ces fameuses lois, et qui ont découvert effectivement qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et qu'on va retrouver dans l'industrie, le fameux coefficient de frottement. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est ce qui va régir un petit peu tous les phénomènes, on va dire, industriels, et qui montre que finalement, la friction est proportionnelle à la charge que l'on va appliquer sur un objet.
Mmh. Aris Procopio, les Égyptiens aussi, il y a très longtemps, pratiquaient aussi cette science du frottement. Pour les pyramides, on peut imaginer aussi que c'était une recherche intéressante pour eux, pour faciliter les transports de charges.
Toute action technique nécessite finalement la mise en place de moyens de transport. Donc les Égyptiens, parmi d'autres, dans l'Antiquité également, on veut transporter des grands blocs. Donc là, on peut lubrifier le bois pour essayer de transporter... avec moins d'investissement, les charges lourdes.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté là, alors, cet après-midi, puisque vous avez apporté une pierre.
Un petit exercice.
Ici. Un petit exercice pratique, c'est ça ?
Comment on peut forer la pierre avec du bois ?
Ouais.
Et c'est ce qu'on a appris avec la tribologie. On peut en effet perforer la pierre, donc dans l'Antiquité, depuis l'Égypte, à l'âge du bronze, on va faire évider la pierre pour faire des vases, des perles, des colliers. Et il faut donc trouer la pierre, comment on fait un trou. Donc on a eu tout un projet, un investissement pour comprendre comment on fait des trous. Ouais. Et vous allez me dire, ils sont fous ces archéologues et tribologues, tant d'investissements pour comprendre.
Et ça, on ne savait pas ? On ignorait la réponse à cette question
On ignorait la réponse des perforations.
Ah bon ?
Et en effet, on a réalisé que en Crète, par exemple, on privilégiait le bois. On ajoutait des abrasifs, on en a parlé, hein, des abrasifs puissants comme du quartz ou de l'émeraude, qui étaient actionnés par le bois avec un forêt donc manuel, et c'est l'abrasif qui va finalement forer la pierre.
C'était si simple au fond.
C'était si simple.
Et on a attendu combien de temps pour le savoir ?
Pas mal d'années.
C'est vraiment la tribologie qui a révélé.
Tout à fait. On avait des hypothèses, on avait aussi des exemples ethnographiques. Ouais. Donc il y a aussi une collaboration qui se fait. Les hypothèses qu'on émet sont fondées sur une observation, sur le registre ethnographique, sur des textes. Mm-hmm. Donc il y a un travail pluridisciplinaire qui permet d'émettre l'hypothèse et ensuite de la confirmer ou infirmer. On accepte aussi, parfois ça ne marche pas.
L'émeri, c'est l'abrasif en fait ?
C'est l'abrasif.
Ah, c'est ça, la pierre d'émeri qui sert justement à frotter. Donc ça, voilà, un exemple concret d'une réponse à une question technique. Très ancienne.
Tout à fait. Et puis le parallèle est intéressant, puisqu'aujourd'hui, nous, pour étudier des phénomènes d'usure, on va utiliser ce qu'on appelle des tribomètres. Alors, un tribomètre, tribologie, tout ça c'est compliqué. Mais un tribomètre, c'est quoi ? C'est une machine rotative qui va venir frotter pour étudier le phénomène d'usure. Et là, on s'aperçoit, justement, avec tous les travaux en archéologie, que finalement, ces fameuses machines de forage, ce sont des tribomètres. Voilà. Ils avaient effectivement tout compris. Hein, ils avaient inventé des tribomètres pour user les matériaux.
Vous voyez de la tribologie partout.
Ça m'a ouvert les yeux au niveau de la tribologie. On prend conscience, effectivement, parfois, on n'a pas inventé grand-chose et on a juste amélioré certains phénomènes.
Autre domaine très intéressant, de la tribologie, celui de la cosmétique.
Oh, t'as l'air reposée !
T'es radieuse !
4 femmes sur 10 sont touchées par l'acné à l'âge adulte.
Le secret d'une peau qui paraît plus jeune se trouve en vous.
Attaquez la journée avec un teint reposé comme après une bonne nuit de sommeil.
Si puissant qu'en un mois, les rides semblent réduites. La peau paraît liftée. Il hydrate, unifie, corrige, éclaire, protège des UV instantanément. Effet peau de bébé en 30 secondes.
Voilà, petit florilège concocté par Violaine Ballet pour cette émission. Donc là aussi, vous intervenez
ça constitue aussi, en termes de recherche, notre quotidien.
Alors, qu'est-ce que vous faites sur la peau ? Expliquez-nous un peu.
Alors, la peau, pour nous, que ce soit une surface archéologique ou une surface de peau, on va dire que c'est un petit
peu le même combat.
C'est le même combat. On va étudier cette fameuse surface. Et dans la peau, on va parler de biotribologie. On va s'intéresser au vieillissement de la peau, c'est-à-dire on va comprendre comment cette peau va vieillir, comment elle va s'abîmer. Et la première conséquence, effectivement, au niveau de cette fameuse peau, c'est qu'il va y avoir des modifications mécaniques. Donc, effectivement, on va étudier la mécanique de la peau. Par exemple, quand on est jeune, si vous regardez la peau de votre avant-bras, vous allez voir sur votre peau des petites lignes très resserrées, très denses.
C'est comme quand on était jeune, en fait, c'est ça ?
Voilà. Il
ne faut pas trop regarder son avant-bras.
Pour une peau de bébé, par exemple. Et après, quand on va vieillir, ces fameuses lignes vont être moins denses et beaucoup plus profondes. Et ça, c'est caractéristique du vieillissement. Et nous, on va étudier effectivement ce fameux vieillissement. Et essayer de comprendre effectivement comment cette surface de peau va se modifier, va vieillir. Pour essayer d'apporter des solutions, soit effectivement par rapport à des fabricants de produits cosmétiques, mais aussi pour comprendre pour des pathologies comme le cutis laxa, par exemple, vieillissement prématuré, effectivement. C'est par exemple des enfants de 7 ans qui ont une peau de 40 ans, voire plus. C'est-à-dire qu'ils ont une dégénérescence au niveau des fibres et de voir effectivement, finalement, quelle est l'évolution de cette maladie au cours du temps.
Vous mesurez le toucher aussi, c'est ça, dans le cas de vos travaux de tribologie et dermatologie ?
Voilà. Alors, le toucher, la peau, effectivement, c'est une surface, c'est une élasticité, mais c'est aussi une douceur. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, on va parler d'objectivation du toucher. Alors, l'objectivation du toucher, c'est mesurer finalement le toucher. Mmh. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les industriels ont besoin de mesurer le toucher de leurs matériaux, que ce soit pour le textile, pour la peau, pour le plastique. Et pour ça, il faut développer des doigts artificiels qui vont permettre de remplacer le doigt humain.
Alors, pour toucher ?
Voilà, pour toucher. Ouais. Tout à fait.
Et donc recueillir des informations ensuite qui vont servir mise au point de textiles ou de produits cosmétiques.
Tout à fait. C'est pour effectivement mettre au point de nouveaux matériaux, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de la cosmétique, on va parler de toucher végétal, et notamment pour un produit cosmétique, on va vouloir qu'une fois qu'il soit appliqué sur la peau, il est un toucher pétale de rose, un toucher velours. Donc on va mesurer une pétale de rose, on va mesurer un toucher de peau avec le produit cosmétique, et puis on va comparer, et de façon à effectivement comparer les mesures et voir si on arrive à reproduire sur la peau avec le produit cosmétique un toucher pétale de rose.
Ouais. Apparemment, vous écoutez la peau aussi, c'est ça ?
Voilà.
On peut dire qu'il y a une véritable écoute.
Tout à fait. Alors quand on touche une surface avec la pulpe de notre doigt, hein, finalement, on fait vibrer cette fameuse pulpe. Et quand on fait vibrer cette pulpe, eh ben, la vibration, c'est un son. Et ce son, justement, on va pouvoir l'écouter, et donc écouter la douceur de la peau, et donc qualifier cette douceur à travers un son.
Qu'est-ce que révèlent vos mesures, alors, justement, sur la peau, grâce à la tribologie ? Qu'est-ce qu'on apprend sur des peaux jeunes, sur des peaux plus anciennes, sur des cheveux, hein, vous travaillez aussi ?
Alors déjà, le constat, c'est effectivement, lorsqu'on a une peau jeune, la peau va, quand on va la toucher, elle va avoir un son beaucoup plus doux. Mmh. Hein, donc il va y avoir moins de vibrations. Et plus on va vieillir, plus cette vibration va être avec une amplitude importante. Ouais. Et c'est ce qui va caractériser le vieillissement de la peau en termes de douceur. Alors ça, ça se, concrètement, c'est lié à quoi ? C'est lié à la peau qui va avoir un relief plus important, mais pas que. Il va y avoir aussi ben, ce qu'on va appeler la mécanique de la peau, son élasticité qui va jouer, mais aussi ce qu'on va aussi appeler la physicochimie, c'est-à-dire la couche de sébum que l'on a sur la peau, hein, ouais. C'est de la physicochimie. Voilà, cet ensemble de trois éléments va faire qu'on va avoir une modification de la douceur de la peau.
On le voit aussi dans les écrans tactiles aujourd'hui. J'imagine qu'il y a tout un travail aussi du toucher, du frottement hein, qui est essentiel.
Alors, c'est vrai qu'avec tous les objets connectés, les écrans tactiles, etc., bah notamment le smartphone, hein, quand on va toucher son smartphone, la première chose qu'on fait, c'est on va mettre son doigt et on va le faire frotter sur la surface. Alors, en été, on va avoir des traces, hein, des traces qui sont liées effectivement aux traces de sébum hein, qui vont être marquées sur l'écran. Et puis en hiver, on ne va pas avoir de traces puisqu'on a moins de sébum. Ouais. Effectivement, il y a tout un tas de travaux liés effectivement à l'amélioration de ce contact entre finalement notre objet connecté, notre écran tactile et le doigt.
Les questions des auditeurs Viron nous disent ceci. Le revêtement des routes est soumis à rude épreuve. Est-ce que les poids lourds sont plus responsables que les véhicules légers de l'usure des routes sur justement les autoroutes?
Ah oui, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a d'ailleurs des laboratoires qui s'intéressent spécifiquement justement à augmenter l'adhérence par rapport aux granulats de la route. Mmh. Et effectivement, bien sûr que la charge, on l'a vu tout à l'heure, hein, le coefficient de frottement, hein, c'est proportionnel finalement à la charge. Donc on met un poids lourd et une voiture, on aura des mécanismes d'usure différents. Pas que, il y a aussi l'air de contact des roues du véhicule qui vont faire qu'effectivement on va avoir une usure plus ou moins importante.
Une question très sérieuse de Laurence qui nous le précise sur Twitter. Est-ce que la tribologie travaille sur la mise au point de préservatifs?
Ah, c'est une question effectivement
qu'on vous pose souvent.
Ça c'est la première des choses. On dit
je fais du frottement
et tout de suite la première chose effectivement le frottement humain.
Alors la réponse?
Eh ben je pourrais dire effectivement oui bien sûr c'est un phénomène de tribologie comme les autres. Bon au jour d'aujourd'hui on a travaillé sur le papier toilette mais pas encore sur les préservatifs.
Ah ben, voyez, y a tout un nouveau champ industriel qui arrive peut-être grâce à cette auditrice. Allez on se retrouve dans un instant. The Do.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Voilà, jusqu'à 15h, Tribologie avec mes invités, Aris Procopio, archéologue, et Roberto Vargiolu. Vos messages donc toujours sur franceinter.fr. Gildas nous dit ceci, la tribologie est considérée avec sérieux, même en paléontologie et écologie des mammifères. Je travaille sur des approches quantifiant les rugosités de surface de l'émail dentaire qui nous permet de retracer les habitudes alimentaires des antilopes, des équidés et même des hominidés fossiles. Ça, c'est encore un exemple d'utilisation de votre discipline.
Tout à fait, oui. La tribologie se prête tout à fait, effectivement, à ce cas très particulier que je connais très bien et qui permet, effectivement, de ouais. remonter aux mécanismes d'usure et notamment dans la question de Gildas, effectivement, de remonter, finalement, aux matériaux qui ont permis d'user ces fameuses dents et pourquoi ouais. pas, justement, à la nourriture utilisée par ces... par les fameux animaux qui ont mangé ces... Ces végétaux.
Aris Procopio, cette question de Catherine pour vous. Des archéologues ont émis l'hypothèse de pouvoir réécouter les paroles de potiers vieilles de plusieurs milliers d'années. Leur son se serait imprimé sur leur poterie. La tribologie pourrait-elle aboutir à cette merveilleuse initiative ?
Je l'espère, mais peut-être dans 1000 ans. On n'a pas encore la technologie. Je ne sais pas ce que Roberto en pense. On a du problème avec déjà la surface, sa complexité, ouais. ses usures.
Mais vous pensez qu'une matière peut justement garder la mémoire du son comme ça ?
Alors là, on a plus à faire des phénomènes d'ondes. Il faudrait qu'elles soient suffisamment puissantes pour imprimer sur de l'argile. Alors déjà un peu, on a du mal à avoir des empreintes digitales parce que nous, on s'intéresse finalement aussi aux empreintes digitales sur un matériau tel que l'argile. On ne les retrouve pas parce qu'elles vont être noyées aussi dans tout un tas d'autres ouais. informations. Il ne faut pas oublier qu'un tour de potier, c'est un système mécanique qui va générer d'autres phénomènes vibratoires. Donc bon, ça paraît peu ouais. probable, mais bon.
Bon, on ne sait jamais. Vous voyez que maintenant, on arrive à lire les papyrus carbonisés. Peut-être qu'un jour, on arrivera à entendre la voix des potiers. Ce serait formidable. Aris Procopio, en tant qu'archéologue, donc, on le disait, votre rencontre s'est passée autour du silex au départ. Vous avez travaillé sur le polissage, par exemple ?
Donc, le point de départ, c'était Patricia Anderson, qui est une spécialiste des outils agricoles, ouais. qui a vu Roberto, qui lui a présenté un sac de silex, plein de silex, ouais. qui a provoqué la panique vu le nombre d'objets à analyser. Et c'est grâce à cette première collaboration que nous, les étudiants de Patricia, on a pu ensuite continuer sur d'autres problématiques, mm-hmm. notamment le polissage. Ouais. Le polissage qui permet de faire le lien avec la peau, le ouais. toucher, car finalement, on réalise que ces artisans du passé... Comment appréciaient-ils cette surface ? Avec leurs mains, mmh. avec leur toucher. Et j'ai personnellement travaillé avec des artisans traditionnels en Inde, où on voit qu'un bon artisan mesure avec ses mains. Oui. Et c'est la palpation d'une surface, la caresse presque d'une surface, qui permet d'atteindre le degré de polissage désiré.
Donc vous avez observé aussi la façon dont travaillent les artisans en Inde aujourd'hui pour faire un pont entre les objets retrouvés en tant qu'archéologue ?
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'ethno-archéologie. Ouais. Donc la comparaison avec des sociétés, des artisans qui appliquent des techniques pré-industrielles non mécanisées ouais. et qui nous permettent ainsi de comparer les traces d'usure sur ces outils. Mmh.
Et là aussi, donc, vous arrivez à réécrire un peu le passé et cette histoire qui vous concerne au quotidien dans votre travail.
Tout à fait, c'est cette démarche de comparaison, de confrontation, de créer des référentiels, les comparer, discuter avec nos collègues mm-hmm. qui nous permettent d'éclairer finalement ces traces.
Oui. Est-ce qu'on a, selon les régions justement du monde ou autour de la mer Égée, différentes pratiques justement du polissage, de ce contact avec la matière ?
Tout à fait, c'est un des résultats majeurs qu'on a obtenu, c'est qu'on voit que si la technologie était proche, ils avaient tous les mêmes moyens, mm-hmm. en Égypte, au Proche-Orient, en Crète, c'est le même niveau technologique, mais ils ne font pas les mêmes surfaces.
Le geste n'est pas tout à fait le même.
Le geste n'est pas tout à fait le même, et même les couleurs qu'ils choisissent ne sont pas les mêmes. Et on pourrait dire que les Crétois sont un peu plus bling-bling. Ils aiment les bon. Couleurs, ils aiment le brillant. Ouais. En Proche-Orient, en Égypte, on aime des surfaces plus douces, plus mates. Donc là, on est dans des perceptions différentes.
Ouais. Donc c'est très fin ce que vous étudiez. Ça permet vraiment de préciser les choses, mais sur des détails, mais qui font aussi la culture des peuples
Tout à fait, c'est l'empreinte culturelle de ces artisans.
Roberto Vargiolu, en vous écoutant, je pensais à ces lignes géométriques attribuées à Néandertal, on en a parlé aussi dans La Tête au Carré, qui ont été datées à 39 000 ans, qui ont été gravées justement à l'aide de pierres aiguisées attribuées donc à Néandertal. Ce serait d'ailleurs quasiment le premier dessin de l'humanité. Et là aussi, votre discipline a des choses à dire. Hein.
Ah bah oui, c'est assez extraordinaire parce que bon, c'est, pour comprendre l'origine de ces traces et finalement remonter aux techniques et aux outils, bah, il est nécessaire de les analyser, ces traces. Et tout le travail d'un tribologue comme moi, c'est finalement d'aller trouver les moyens pour analyser ces traces et ensuite de faire parler ces fameuses traces. Ouais. Et une fois qu'on a un petit peu fait parler ces traces, bah, c'est d'aller voir l'archéologue et de lui dire « Regarde, j'ai observé ça. Est-ce que, effectivement, dans le contexte concernant la période, est-ce que c'est réaliste ?» Et on va, à ce moment-là, imaginer des mécanismes d'usure et comme ça, avec l'archéologue, avoir cette collaboration et remonter finalement aux mécanismes d'usure, c'est-à-dire aux gestes, mais aussi à l'outil.
Ou les paléo-anthropologues, là, pour le coup, puisque quand on travaille sur Néandertal, ça peut être très intéressant. Vous travaillez d'ailleurs avec certains d'entre eux ou pas ?
On a travaillé effectivement sur des sujets, assez courts avec eux. Mais c'est vrai que nous, notre domaine, c'est vraiment la compréhension des mécanismes d'usure en archéologie sur la fabrication et sur l'utilisation des objets dans les périodes plus récentes.
Joachim nous dit ceci sur Twitter. Tout matériau subit-il nécessairement une usure ? Le terme d'inusable est-il réaliste ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui s'intéressent justement à on va appeler ça des lubrifiants solides anti-usure. Donc l'idée, c'est de recouvrir un matériau ou de fabriquer un matériau anti-usure. Donc c'est effectivement une demande et réaliste, oui, bien sûr. Maintenant, à quel coût, ça, c'est toute une autre question.
Roberto Vargiolu, pour terminer, il faut dire un mot de la table claudienne, quand même, qui est un peu la joconde du musée gallo-romain de Lyon, c'est ça sur
le... Oui, alors je ne peux pas venir de Lyon
sans en dire un mot.
Sans vous parler de la fameuse table claudienne, d'autant plus que c'est un sujet de recherche qui est assez extraordinaire. Ouais. La table claudienne, c'est la joconde du musée gallo-romain de Lyon. Hein, c'est un discours qui a été inscrit sur une plaque de bronze qui est assez gigantesque. Elle fait 1,93 m par 1,39 m. Alors bien sûr, ce texte est hyper connu parce qu'il a été prononcé par l'empereur Claude pour autoriser les Gaulois à faire partie du Sénat romain. Bon, ce texte a été étudié en long, large et en travers, mais nous, on s'est plutôt intéressé aux techniques de fabrication, puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas effectivement comment ce texte avait été fabriqué.
Comment on avait gravé les lettres.
Voilà, comment les lettres ont été inscrites sur cette fameuse table. Ouais. Et donc, on a fait des travaux qui ont montré que cette table avait été réalisée par la technique de la fonte à la cire perdue. Et notamment qu'ensuite, toutes les lettres de cette fameuse table, ce qui en fait un caractère assez exceptionnel, ont été retouchées une par une.
Donc, lettre par lettre.
Ouais. Voilà, lettre par lettre. C'est vrai, quand on va au musée gallo-romain de Lyon et on voit cette fameuse table, elle est assez extraordinaire parce qu'elle a zéro défaut. Ouais. Alors, c'est un sujet effectivement qui me passionne parce que c'est un sujet qui est assez porteur, notamment pour tout ce qui va être vulgarisation de la science. Ouais. Et autour de ce sujet, on a fait une bande dessinée avec l'école Émile Cole qui justement a permis de vulgariser cette fameuse science qui s'appelle la tribologie. Je vous rappelle, c'est la science du frottement et de l'usure. Ouais.
Et comment comprendre la science avec du chocolat, par exemple, autour de la table claudienne ?
Justement, pour vulgariser un petit peu tout ça, on a remplacé donc la fabrication de la table claudienne en bronze par du chocolat.
Ouais,
et on réalise des ateliers enfants où les enfants vont fabriquer une table claudienne en chocolat et ils vont repartir avec leur petit morceau de table claudienne en ayant retenu que la tribologie, c'était la science de l'usure et du frottement.
Voilà. Et qu'on peut manger du chocolat aussi grâce à elle. C'est pour ça que vous nous en avez apporté cet après-midi et je vous en remercie. Je signale d'ailleurs que vous cherchez un éditeur pour votre bande dessinée. S'il y en a qui sont à l'écoute, hésiter, c'est de la bonne science dessinée.
C'est de la bonne science. C'est de la bonne vulgarisation, avec de l'expérimentation, avec une histoire scientifique vraie. Ouais. Et on en est à notre troisième tome en termes de BD sur d'autres sujets, en archéologie, notamment un tribulum, et l'étude de momicoptes.
Voilà, donc l'appel est lancé. Pour ceux qui sont intéressés, vous passez par La Tête au Carré. Merci beaucoup, Aris Procopiou et Roberto Vargiolu. Vargiolu, ça vous dit quelque chose, vous, Fabrice Drouel, ce nom, cette sonorité ?
Oui, bien sûr, j'ai pas le temps d'expliquer là, parce qu'on n'a pas le temps, mais sinon, oui.
C'est un sarde qui est en face de vous. Mais si on a 10 secondes pour nous, comme ça, c'est cadeau. De quoi on parle dans un instant ?
L'affaire Patrick Diels, qui est une affaire très douloureuse du nom de ce jeune homme qui a été mis 15 ans en prison alors qu'il n'avait rien fait, qui pendant ces 15 ans a été violé par ses codétenus. C'est une erreur judiciaire que je traduis personnellement comme une horreur judiciaire.
Et votre invité pour en parler ?
Emmanuel Charlot, notre confrère journaliste journaliste enquêteur, auteur du livre intitulé « L'affaire Diels Holm », parce que Holm intervient aussi, mais vous en saurez plus dans quelques minutes.
Après les infos, merci Fabrice, merci à tous les deux également.